Belle journée sur France Culture. À 12h45, ce sera la grande table d'été et tout de suite, le journal.
Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Un réveil dans la douleur et le chaos au Liban. Plus de 100 morts, près de 4000 blessés. Après les explosions hier d'une cargaison de produits chimiques et d'explosifs entreposés sur le port de Beyrouth. Le bilan va sans doute encore s'alourdir. Les équipes de sauvetage continuent de rechercher d'éventuels survivants. Laure Stéphane nous détaillera la situation depuis la capitale libanaise. Des explosions, un souffle puissant, un nuage de fumée immense. Christian Chéneau a pu joindre des habitants de Beyrouth encore sous le choc aujourd'hui. Vous les entendrez. Et puis ce midi, on en sait plus sur cette cargaison et ce bateau à l'origine, selon les autorités libanaises, de cette tragédie, précision de Benjamin Recouvreur. Nous irons ensuite en Inde, où le pouvoir nationaliste inaugurait ce matin un temple hindou sur un lieu hautement symbolique pour les minorités musulmanes du pays, correspondance de Sébastien Farcy. En France, Jean Castex au chevet de la filière viticole, qui attend un nouveau coup de pouce de l'État pour surmonter la crise liée au coronavirus, éclairage d'Anne-Laure Chouin. Vous entendrez également la colère des enseignants contractuels, pénalisés eux aussi par la crise. Et puis direction le sud de la France, la région de Martigues en proie aux incendies, 1000 hectares brûlés, des milliers d'évacués. Mathilde Vinceneux est auprès des sinistrés. Après le drame, Beyrouth commence déjà à panser ses plaies. Hier, en fin d'après-midi, deux gigantesques explosions au port de Beyrouth ont dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise. Le bilan des victimes, qui ne cesse de grimper depuis, plus de 100 morts et près de 4000 blessés. En attendant l'aide humanitaire qui doit arriver de l'étranger, de France notamment, comme l'a promis l'Élysée hier, les secours sur le terrain continuent d'inspecter les débris. À Beyrouth, les précisions de Laure Stéphane.
La recherche des survivants et des victimes se poursuit. Les secouristes n'ont pas cessé leurs efforts depuis hier sur la zone de la double explosion dans le port de Beyrouth. Une zone où se sont rendus ce matin le président et le chef de l'armée. En parallèle, c'est aussi l'aide qui s'organise. Des premiers cartons d'aide humanitaire sont en effet arrivés à Beyrouth. Ils proviennent du Koweït. Plus tard dans la journée, des médecins français sont également attendus, ainsi que du matériel médical. La participation à venir de Moscou et d'Amman a été confirmée pour secourir le Liban dévasté par la double explosion. D'autres donateurs ont proposé une aide, mais rien n'est officialisé pour l'instant. Et puis il y a aussi tout le réseau d'entraide libanais qui fonctionne à plein. Ce sont ces dons du sang dans les hôpitaux, ces collectes organisées en ligne, des groupes WhatsApp aussi pour participer à des distributions de nourriture ou de vêtements pour offrir un toit à ceux dont les appartements sont inhabitables. C'est une solidarité que la société démontre dans les situations de catastrophe. Selon le gouverneur de Beyrouth, près de la moitié de la ville a été endommagée par les déflagrations et les destructions sont estimées à plus de 3 milliards de dollars.
On a ce midi une première idée des dégâts et des conséquences. Les dommages s'étendent donc à peu près sur la moitié de Beyrouth, bâtiments détruits ou abîmés dans le meilleur des cas, vitres et portes des habitations, bureaux, des véhicules en morceaux. Jusqu'à 300 000 personnes pourraient se trouver sans domicile selon les autorités. Alors ce matin, Christian Chéneau, le réveil est difficile pour les habitants de Beyrouth.
Les Libanais n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui s'est passé sur le port hier. Ils sont sous le choc de cette déflagration hors norme. Fadi Assaf, un consultant pour entreprise, se trouvait dans le quartier d'Ashrafaye au moment de l'explosion. Il a d'abord cru à un acte de guerre ou à un attentat, comme Beyrouth en a tant connu dans le passé.
Au début, j'ai pensé à un acte délibéré. Bon, ça peut être un attentat, ça peut être une voiture piégée que je pensais très proche de moi. Je pensais à une attaque de missile par drone, un bombardement, on ne sait rien. Donc on est dans la confusion. Personne ne pouvait penser qu'il s'agissait d'une explosion accidentelle. Le choc est inimaginable.
Au lendemain du cauchemar, le romancier Alexandre Najjar se remémore ces instants d'apocalypse.
Subitement, en fait, ça s'est passé en deux temps. Le premier, c'est une sorte de souffle puissant et puis l'immeuble qui tend, qui vibre, comme pour un tremblement de terre. Et c'est là, quelques secondes plus tard, qu'une terrible explosion, comme jamais on en a entendu pendant la guerre, qui a fait sauter toutes les vitres. Donc il y a eu des pans de baies vitrées qui se sont abattus sur les bureaux. Enfin, tout est tombé.
Partout dans Beyrouth, c'est le même spectacle de désolation, comme si une nouvelle malédiction s'était abattue sur la capitale libanaise.
Christian Chéneau, nous le disions, la recherche des disparus continue. Un compte Instagram, Locate Victims Beyrouth, a été créé hier soir pour diffuser les noms et les portraits des disparus. Une centaine de portraits d'hommes et de femmes ont déjà été publiés. Des personnes qui, aux dernières nouvelles, se trouvaient autour du port de la capitale libanaise où ont eu lieu les explosions. Pour ce qui est de la raison de ce drame? Justement, beaucoup de rumeurs, de spéculations ont alimenté les réseaux sociaux dès la diffusion des premières images des explosions, jusqu'à Donald Trump qui a laissé entendre qu'il pouvait s'agir d'une bombe. Les autorités libanaises ont rapidement communiqué, pointant du doigt des matières explosives après une saisie sur un bateau et entreposée au port depuis des années. Benjamin Recouvreur, bonjour.
Bonjour.
Que sait-on donc de la provenance de la cargaison du bateau à l'origine des explosions?
Ce bateau, il vient de Géorgie et il était présent dans le port de Beyrouth depuis 2013. Cette année-là, en septembre, un cargo chargé de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, cet engrais hautement explosif, est obligé de s'arrêter dans le port de Beyrouth pour des problèmes techniques. Il doit rejoindre le Mozambique. Au vu de son état après inspection, le navire a interdiction de repartir. Il est bloqué dans la capitale libanaise, mais on ne sait pas vraiment pour quelle raison le cargo ne peut plus naviguer. Les propriétaires du bateau ont été identifiés à l'époque. Il s'agit d'une compagnie de droit chypriote détenue par des Russes. En revanche, peu d'informations sur les destinataires de la cargaison. Le bateau et son équipage sont ensuite restés bloqués dans le port de Beyrouth pendant plusieurs mois, pour certains plusieurs années. Le propriétaire, lui, a rapidement totalement abandonné le navire. Une fois l'équipage libéré, les autorités portuaires décident de décharger la cargaison dans le port en raison de sa dangerosité. Elle reste alors stockée sur le port de Beyrouth dans des conditions de sécurité qui semblent être minimales. C'est en tout cas ce que devra déterminer l'enquête qui débute maintenant.
Merci Benjamin Recouvreur. Et ce soir, nous reviendrons en longueur sur la situation au Liban. France Culture adapte son antenne à cette actualité tragique et vous propose une émission spéciale d'une heure avec invités en direct depuis le Liban ainsi qu'en studio. Rendez-vous à 18h. En Inde, une preuve de plus de l'hostilité du pouvoir envers les minorités musulmanes. Le Premier ministre nationaliste Narendra Modi vient de poser la première pierre de la construction du temple de Ram au nord du pays. Il s'élèvera sur le lieu le plus contesté de l'histoire moderne indienne, là où des hindouistes ont détruit illégalement une ancienne mosquée en affirmant que c'était le lieu de naissance de la divinité Ram. Pour les nationalistes hindous, c'est une énorme victoire politique. Correspondance en Inde de Sébastien Farsi.
Ils sont cinq sur l'estrade de cette cérémonie tant attendue. Un prêtre, le gouverneur et le chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh, le chef de l'organisation hindouiste du RSS et Narendra Modi. Et c'est ce dernier, le premier ministre indien, qui est le principal acteur et qui envoie les offrandes dans le trou qui accueillera les fondations du temple de Ram. Habillé en safran, la couleur de l'hindouisme, et offrant ainsi toute la bénédiction de l'État lors de cet événement purement religieux, le premier ministre indien envoie un message clair, le temple de Ram est aujourd'hui un temple de la République. C'est l'analyse de Nilanjan Mukhopadhyay, auteur spécialiste du nationalisme hindou.
It marks the complete obliteration of all separation between religion and state.
Cette cérémonie oblitère toute séparation entre la religion et l'État. Le dieu Ram n'est plus un dieu, mais il est converti en symbole du nationalisme indien. Et tous les Indiens qui appartiennent aux minorités religieuses ou qui sont opposés à cette vision n'auront plus voix au chapitre.
Cela faisait 50 ans que les hindous réclamaient un temple de Ram à cet endroit. Le gouvernement assure qu'il sera terminé dans environ 3 ans, soit juste avant les prochaines élections parlementaires.
Sébastien Farsi. Dans le même temps, l'Inde a placé le Cachemire sous surveillance aujourd'hui, mesure sécuritaire renforcée pour le premier anniversaire de l'abrogation de l'autonomie de cette province à majorité musulmane. Donald Trump n'en finit pas d'asticoter la Chine. Les nœuds de la discorde sont déjà nombreux. Le rachat imposé de TikTok par Microsoft, le soutien de la Maison-Blanche au mouvement pro-démocratie à Hong Kong et aujourd'hui, l'annonce d'une visite prochaine d'un membre du gouvernement Trump à Taïwan. Les États-Unis avaient mis fin aux relations diplomatiques officielles avec Taïwan en 1979, car l'île est considérée par le régime chinois comme l'une de ses provinces. Pékin a rapidement rétorqué ce matin, accusant Washington de mettre la paix en danger. En France, Jean Castex de retour sur le terrain ce matin, alimentant un peu plus son image de Premier ministre des territoires. Après la tournée des masques, place à la tournée des vins, visite dans le Cher, accompagné du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, pour répondre aux nombreuses inquiétudes des viticulteurs durement touchés dès les premiers jours du confinement en mars. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Adrien.
La filière a déjà touché une première enveloppe de soutien, mais elle attend plus pour survivre à la crise.
Oui, en mai déjà, un plan de soutien de 170 millions d'euros avait été promis quand les viticulteurs en demandaient 500 millions. Il faut dire que la filière très exportatrice a souffert à la fois de la fermeture des frontières pendant le confinement et évidemment de celle des restaurants, sans compter que sans compter que la consommation dans les foyers a elle aussi fortement ralenti et que dans le domaine alimentaire, il n'y a pas de consommation de rattrapage. Le confinement est certes terminé, mais la restauration souffre encore et le tourisme aussi, ce qui a un impact direct sur les ventes. Désormais, les stocks de bouteilles sont au plus haut, mais la vigne, elle, n'attend pas pour pousser. La récolte 2020 approche et certains vignerons ont peur de devoir laisser pourrir le raisin faute de débouchés. Un des débouchés imaginé, c'est la distillation de l'alcool de raisin pour fabriquer du gel hydroalcoolique, du carburant ou encore des parfums. Mais l'aide européenne pour ce faire est insuffisante, selon les professionnels, qui estiment au total le manque à gagner pour la filière de 1,5 milliard d'euros. Une filière qui souffrait déjà notamment des sanctions mises en place par Trump sur les alcools européens fin 2019. Et puis, il y a la question tout à fait épineuse de la main-d'œuvre. La grande majorité des ramasseurs de raisins dans les grands vignobles est étrangère. Elle vient des pays les plus pauvres d'Europe, Bulgarie, Roumanie, Hongrie ou Pologne. Cette main-d'œuvre pourra-t-elle se déplacer librement? Sur ce sujet, pas de réponse claire et beaucoup d'inquiétudes. Les viticulteurs, enfin, réclament l'élargissement des mesures d'exonération de cotisations sociales pour les exploitations qui ont perdu au moins 60% de leur chiffre d'affaires.
Anne-Laure Chouin, merci. On y reviendra bien entendu dans le journal de 18h avec les annonces de Jean Castex pour soutenir la filière. Sur le front de l'épidémie en France, après la mise en garde hier et l'appel à anticiper une seconde vague à l'automne de la part du Conseil scientifique, son président ce matin précise qu'on est encore loin d'atteindre l'immunisation collective dans le pays. Environ 10% de la population française a été en contact avec le virus, qu'elle ait eu ou non des symptômes, a expliqué sur France Inter Jean-François Delfraissy, avec des nuances en raison des régions plus touchées que d'autres. Or, l'immunité collective ne sera atteinte qu'au moment où 50 à 70% de la population aura été contaminée. À la liste des villes qui imposent le port du masque, il faudra prochainement ajouter Paris. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, et la préfecture de police vont dévoiler dans les prochains jours une liste des lieux en plein air où il sera obligatoire. Des lieux très fréquentés comme les berges de Seine, les marchés à ciel ouvert et les alentours des gares pourraient être concernés. On a beaucoup parlé des étudiants pénalisés par la crise sanitaire, mais les professeurs contractuels l'ont énormément été aussi. En cause, l'annulation des oraux du concours d'enseignants à cause de la Covid, remplacée par une sélection sur dossier. La moitié des 8000 candidats admissibles qui avaient pourtant réussi l'épreuve écrite ont finalement été recalés. Certains, poussés par la colère, ont monté un collectif et saisi hier le Conseil d'État. Selon eux, l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, aurait dû trouver une solution non pénalisante. Quentin Lhuillier est le porte-parole du collectif.
Le ministre a décidé de lancer, notamment sur Internet, une campagne de recrutement de 25 000 enseignants. Mais nous, au concours interne, non, vous voyez. Donc, on se demande pourquoi. Et la raison qu'on a trouvée, c'est que comme on est payé pas très cher et que souvent on se tait parce qu'on a peur de pas avoir de poste à la rentrée, et ben c'est des conditions qui sont assez favorables à un employeur, qu'est le ministre. Et donc, raison pour laquelle, sans doute, il nous maintient dans la précarité. Et donc, le Conseil d'État s'est saisi pour pouvoir dénoncer l'arrêté qui a été pris par le ministre.
Pour quel motif, du coup?
Alors, il y en a trois. Le principal étant le motif, celui d'erreur d'appréciation du ministre. C'est-à-dire que compte tenu des éléments objectifs, nous soutenons qu'il aurait pu faire autrement. Je pense qu'il a pris les décisions qu'il arrangeait. Alors il a dit qu'il prenait des décisions en nous écoutant. Non, non, il ne nous a pas écoutés. Parce que s'il nous avait écoutés, il aurait entendu que nous demandons l'admission de tous les admissibles, c'est-à-dire des 8000 admissibles, et c'est pas ce qu'il a fait. Il a écouté ses intérêts et sans doute ses intérêts financiers.
Propos recueillis par Margot Siffert. Direction le sud de la France maintenant, en proie à de nombreux incendies depuis hier. 1800 sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont mobilisés contre des feux très virulents. Ils sont désormais fixés ou quasi ce midi, selon les autorités. Les Canadairs ont stoppé leur rotation. Environ 1000 hectares de végétation ont brûlé entre Martigues et Saucelles-les-Pins. 2700 personnes ont été évacuées, principalement depuis des campings. Mathilde Vinceneux, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez justement à La Couronne, devant un camping qui a totalement brûlé.
Oui, le camping Tamaris, où il ne reste quasiment que des cendres, hein, de la fumée et une forte odeur de brûlé. Les caravanes, les mobil-homes ont été entièrement détruits. Pour les vacanciers, la plupart habitués de ce camping depuis 10 ou 20 ans, c'est un spectacle dramatique. Certains avaient les larmes aux yeux tout à l'heure en constatant les dégâts. Beaucoup ont passé la nuit dans des gymnases après avoir été évacués en bateau. Ici, en fait, le feu est arrivé très vite et les flammes ont poussé les occupants vers la mer dans une anse. Ils sont restés là plusieurs heures, les pieds dans l'eau avec des étincelles autour d'eux. Ils ont entendu des explosions de bouteilles de gaz. Et maintenant, après cette nuit de cauchemar, ils tentent de récupérer ce qu'ils peuvent, mais il ne reste pas grand-chose. Quelques voitures épargnées pour les plus chanceux qui veulent quitter la zone au plus vite. Cet incendie signe la fin des vacances pour beaucoup, pendant que les pompiers, eux, continuent d'arroser tout autour les braises, les cendres pour éviter les reprises de feu.
Mathilde Vincenot, merci, en direct depuis la Couronne près de Martigues. La météo cet après-midi, derniers instants de répit avant l'arrivée de la canicule demain, un grand soleil partout sauf sur la pointe bretonne où le ciel sera voilé. Les températures seront comprises entre 21 et 33 degrés, 21 à Brest et Cherbourg, 27 à Nantes et Nice, 28 à Lille, Tarbes et Ajaccio, 29 à Paris et Marseille et 31 à Montpellier. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, merci à lui.